Le gouvernement Le Cornu 2 qui se met en ordre de marche. Premier conseil des ministres ce soir à 19h. Et ensuite, dans la foulée, déclaration de politique générale de Sébastien Le Cornu devant l'Assemblée nationale. Un jour formidable pour le Moyen-Orient, les mots de Donald Trump, le président américain vu comme le grand architecte qui a construit l'accord de paix à Gaza. Le Hamas a libéré les 20 derniers otages vivants qui passent leur première nuit avec leurs proches depuis 738 jours. Rassembler, amplifier, rayonner, ce sont les mots d'ordre de la 5e édition du Nouméa Women's Forum. Elle sera donc lancée le 4 novembre et mettra l'accent sur la jeunesse du Pacifique. En football, l'équipe de France refroidit en Islande. Les Bleus marquent le pas en qualification à la Coupe du Monde. Après 3 victoires de rang, ils enregistrent leur premier match nul, 2 buts partout. Les Bleus qui pourront toutefois valider leur ticket pour le Mondial 2026 le mois prochain face à l'Ukraine. Bonjour à tous et bienvenue dans Infomag pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, en métropole et dans le monde. Avant de développer tous ces titres qui font l'actualité ce matin, un coup d'œil au magazine Citoyen. Bonjour Lionel Sabot.
Bonjour Nicolas Legrand.
Et vous le consacrez cette semaine au mentorat.
Effectivement, 26 jeunes de 5e, 4e et 3e sont engagés dans le dispositif mentorat de la province sud. Il consiste en fait à mettre en lien un jeune avec un mentor qui est bénévole du monde professionnel et les deux se rencontrent une fois par mois. Le salarié ou chef d'entreprise fait découvrir aux collégiens son métier et l'encourage aussi, et c'est important, à croire en lui et à développer son potentiel. Alors pour en parler, nous recevrons tout à l'heure, juste après votre journal, Nicolas Gilles-Briel, deuxième vice-président de la province sud, qui est en charge notamment de l'enseignement. Nous serons également avec Christelle Berger, qui est chargée de mission reconversion et mentorat à la province sud. Nous accueillerons également sur notre plateau Cécile Chamborédon. Elle est directrice adjointe de la SECAL et c'est nouvellement un mentor. Nous serons également avec Joyce Goyetta, élève en 3e qui bénéficie donc du mentorat depuis 2 ans maintenant. Le mentorat, on vous expliquera tout d'ici quelques minutes dans le magazine Citoyen. Ce sera juste après votre journal aux alentours de midi.
Une première réunion de travail pour le nouveau gouvernement. Hier soir pour nous, Sébastien Le Cornu a rassemblé l'ensemble des membres de sa nouvelle équipe et il a prononcé une brève allocution en présence de la presse. Il a remercié ses nouveaux ministres d'avoir accepté d'entrer au gouvernement dont la seule mission est de surpasser la crise politique.
Merci d'avoir accepté de rentrer au gouvernement de la République dans un moment qu'on le sait est difficile et au fond dont notre seul objectif et seule mission évidemment de surpasser, de dépasser cette crise politique dans laquelle nous nous trouvons et qui sidère une partie de nos concitoyennes, de nos concitoyens, qui peut aussi sidérer une partie du monde qui nous regarde et sur lequel la responsabilité qui est la vôtre, qui est la mienne, qui est la nôtre devant le pays et un peu peut-être devant l'histoire, toutes choses égales par ailleurs, mérite évidemment un engagement de chaque instant.
Et Sébastien Le Cornu a invité les ministres à mettre leur ego de côté et leur a donné comme mot d'ordre liberté, humilité et exemplarité.
Je souhaite un gouvernement à la tête de la République qui soit un gouvernement de personnalité libre. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de cohésion, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'ordre et de la méthode, mais en tout cas, cette liberté, elle permet aussi beaucoup de choses. Elle permet de bouger les lignes, y compris avec les formations politiques qui nous soutiennent, celles aussi évidemment qui vont être dans l'opposition. Elle permet de bouger les lignes avec les différents corps intermédiaires, associations d'élus, représentants des syndicats salariés et patronaux. Et au fond, elle permet tout simplement de bouger les lignes dans le pays. Parce que le spectacle auquel on a assisté depuis maintenant plusieurs jours, dont la responsabilité peut aussi me revenir, vous le savez, je l'ai déjà dit publiquement, mais en tout cas, je ne me dérobe de rien, elle doit passer nécessairement par un sursaut. Et la composition de ce gouvernement, pour moi, en tout cas, tel que je l'ai proposé au président de la République, participe à cela. Et donc, pour tout cela, je vous en remercie chaleureusement. Liberté, humilité, et le dernier mot, ça sera bien sûr exemplarité.
Voilà pour les mots de Sébastien Le Cornu. Le premier conseil des ministres sera convoqué ce soir à 19h, heure de Nouméa. Et ensuite, place à la déclaration de politique générale de Sébastien Le Cornu devant les députés à l'Assemblée nationale. Ce sera à 15h, heure de Paris, soit donc à minuit pour nous. Je rappelle que 2 motions de censure ont été déposées par la France Insoumise et le Rassemblement National. Et l'une d'entre elles pourrait bien être adoptée, Maïalène Trémollet.
Le calcul est simple. En comptabilisant les votes des groupes qui ont déjà déposé une censure, à savoir la France Insoumise, le Rassemblement National et ses alliés, ainsi que ceux qui devraient censurer à la suite du discours de politique générale, les écologistes et le groupe GDR, la gauche démocrate et républicaine, 264 voix penchent d'ores et déjà pour une censure. Il manque donc seulement 25 députés pour obtenir une majorité et faire tout basculer. Et si les républicains ont promis de soutenir le nouveau gouvernement, d'autres groupes attendent le dernier moment pour prendre prendre une décision, à commencer par le Parti Socialiste qui pose une condition, la suspension immédiate et complète de la réforme des retraites. De son côté, le groupe Liot ne donnera pas de consigne de vote à ses 23 élus. Enfin, parmi les 11 députés non inscrits, 4 d'entre eux, anciens du RN ou des Républicains, devraient vraisemblablement voter la censure, des voix individuelles qui pourraient entraîner la chute du gouvernement moins d'une semaine après son arrivée au pouvoir.
Maïalène Trémolet du service politique d'Europe 1. Alors cette nuit ont eu lieu des passations de pouvoir dans la sobriété, dans les différents ministères, et notamment rue Oudinot où Manuel Valls a passé le flambeau à Naïma Moutchou, sans la présence du public et de la presse. Mais l'ancien ministre d'État a enregistré une séquence sur Instagram pour dresser le bilan de ses 9 mois au ministère des Outre-mer, Elisabeth Noir.
Membre du gouvernement Le Cornu 1, Manuel Valls ne fait pas partie du Le Cornu 2, où Naïma Moutchou a été nommé ministre des Outre-mer. Il affirme ne pas avoir de regrets, mais on sent une certaine amertume de la part de Manuel Valls, qui exprime à la fois de l'inquiétude, un malaise, du dégoût et de la tristesse.
Je quitte sans regret le gouvernement. Je ne vous cache pas ma profonde inquiétude face aux événements politiques de ces dernières semaines, si périlleux pour notre pays, pour la démocratie et pour la République. Je ne vous cache pas non plus mon malaise, pour ne pas dire mon dégoût, face au spectacle politique offert aux Français. Mais je suis triste de quitter cette mission passionnante, exaltante, qui était d'assumer les politiques publiques vers les Outre-mer et vers mes compatriotes ultramarins.
Voilà pour l'état d'esprit de Manuel Valls qui passe en revue tous les chantiers qu'il a menés en 9 mois. Et d'abord, sans surprise, la Nouvelle-Calédonie qui doit, dit-il, être la priorité absolue du gouvernement, tant ce que nous avons construit là-bas est aussi fragile que précieux. Il rappelle la signature de l'accord de Bougival, bien sûr, et le processus législatif en cours qui est indispensable pour mettre en œuvre ce processus.
Le risque d'une remise en cause de l'accord existe. Elle serait un frein à la reconstruction économique, sociale et financière, et elle mettrait en cause les projets de reprise des usines qui exploitent le nickel. La Nouvelle-Calédonie pourrait alors replonger dans le chaos et la violence. Ce que nous avons réussi à faire sur la Nouvelle-Calédonie, contre toute attente, contre bien des obstacles, est dû à un haut niveau de portage politique. Et je pense à cet instant à Michel Rocard et à Lionel Jospin. J'appelle l'ensemble des forces politiques à la responsabilité, à Paris comme à Nouméa.
Manuel Valls évoque aussi Mayotte et les autres collectivités d'outre-mer avec le regret de ne pas être allé à Saint-Pierre-et-Miquelon ni à Wallis et Futuna. Il évoque également son engagement contre la vie chère ou dans la lutte contre le narcotrafic. Et dans un message plus politique, il appelle à une rupture avec la présence coloniale de la France. Il termine par ce qu'il appelle un cri d'amour aux outre-mer, en revenant curieusement au passage sur les raisons de sa nomination.
J'aime ces territoires et leurs habitants. Comme Premier ministre, je les connaissais déjà. Comme ministre des Outre-mer, j'ai appris encore davantage à les connaître. Et j'ai surtout appris à les aimer. Beaucoup de choses ont été racontées sur la manière dont je suis revenu au gouvernement après près de 8 années d'absence. Les choses sont pourtant assez simples. Il s'agissait de la volonté de François Bayrou. Et je veux rendre hommage à son choix, qui était d'abord celui d'ériger ce ministère au rang de ministre d'État, porté par un ancien Premier ministre, pour leur donner une importance nouvelle, inédite même.
Un hommage à François Bayrou qui est aussi bien sûr un tacle à son successeur Sébastien Lecornu, et on sent quand même un peu d'amertume de la part de l'ancien ministre d'État, ministre des Outre-mer.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici justement notre question du jour. Regrettez-vous que Manuel Valls ne soit plus ministre des Outre-mer? Si vous le regrettez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier maintenant, 87% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils approuvent la reconduction de Sébastien Lecornu comme Premier ministre. Ils sont 13% à dire qu'ils ne l'approuvent pas. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Il est 11h passé de 40 minutes, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une première pause publicitaire dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité et notamment l'actualité internationale avec la signature de cet accord de paix à Gaza.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Bon, Tu peux respirer moins fort, là ?
Je respire pas fort, je me motive. Faut que j'aille faire le marathon dans tout Nouméa pour faire des courses. Il manque des surgelés, du pain, des produits d'entretien. Et j'ai pas envie de croiser ta mère. J'aimerais bien y aller avant qu'elle arrive.
Alors, déjà, si tu vas au complexe Le 4, tu as tout sur place. C'est gel, la maison du pain, c'est local, la cave. Donc pas besoin de faire tout Nouméa. Et deuxièmement, ma mère est là, juste derrière toi.
Ah ! Salut belle maman. Mais le 4, c'est pas seulement pour les professionnels, ma chérie d'amour?
Non, c'est avant tout pour les particuliers.
Ah yes, bon, moi j'y vais, hein.
Ouais, c'est ça, vas-y, ouais. Complexe Le 4, 186 rue Jacques Yekawe. Ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 18h et le samedi de 8h à 17h. Plus d'infos sur la page Facebook du Complexe Le 4. Complexe Le 4, faites vos courses autrement.
Ensemble pour l'eau, bâtissons la réglementation de demain. La loi du pays sur le domaine public de l'eau et la protection de la ressource est adoptée. Œuvrons à sa mise en œuvre lors du Forum de l'eau 2025. Adaptez-la à vos réalités locales. Répondez à la consultation publique sur son arrêté d'application. Partagez vos propositions en atelier thématique les 21-22 octobre à Koné, les 28-29 à Nouméa et en plénière le 6 novembre au Centre culturel Tchibaou. Inscrivez-vous pour participer. Toute l'info sur eau.nc ou au 25-51-12. Ceci est un message du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
En octobre, Ubaïcotex présente l'opération Uni pour elle. Pour chaque paquet de protection acheté, 20 francs seront reversés à l'association Amazon Nouvelle-Calédonie au profit des familles de femmes touchées par la maladie. Soutenez autrement celles qui luttent chaque jour avec Ubaïcotex. Plus d'informations sur le Facebook Sakebo NC.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Nicolas Legrand.
C'est une journée que les Israéliens craignaient de ne jamais connaître. 738 jours après les terribles attaques du Hamas le 7 octobre 2023, on peut le dire, plus aucun otage vivant n'est retenu dans les geôles palestiniennes. Les 20 derniers d'entre eux sont rentrés chez eux, auprès de leurs proches. Les Israéliens se sont d'ailleurs rassemblés sur la place des otages à Tel Aviv pour célébrer leur retour.
De vivre ça avec eux aujourd'hui, c'est juste extraordinaire. On ressent l'émotion dans tout le pays. Les gens klaxonnent, manifestent leur joie et c'est un sentiment extraordinaire.
Cette unité-là, aujourd'hui, on l'a sentie. Il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, il y avait des musulmans. Il n'y avait pas ni de gauche ni de droite. On était tous ensemble pour nos khatoufim, pour les otages.
D'un côté, on est très heureux d'avoir nos otages de retour, ou plutôt en bonne santé apparemment. Mais d'un autre côté, il faut se rappeler qu'il nous manque encore des corps d'otages. Beaucoup ne pourront pas revenir à la maison. La visite de Donald Trump permet à Israël d'envisager l'avenir sereinement.
Et le Hamas s'est engagé à rendre par ailleurs les corps des 47 autres otages décédés durant leur détention à Gaza. 4 dépouilles sont déjà arrivées dans l'État hébreu. Les corps sont d'ailleurs en cours d'identification. Et en échange du retour des otages, l'État hébreu libère près de 2000 prisonniers palestiniens. Des foules en liesse également ont accueilli les anciens détenus ces dernières heures en Cisjordanie ou encore dans le sud de la bande de Gaza. Des échanges rendus possibles grâce au plan de paix de Donald Trump présenté il y a 2 semaines et mis en œuvre depuis vendredi. Cet accord historique vient d'être signé à Sharm el-Sheikh en Égypte où se tenait aujourd'hui un sommet international sur la paix à Gaza sans le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, sans représentant non plus du Hamas, mais en présence du président américain qui auparavant avait été ovationné par la Knesset, le Parlement israélien.
C'est un grand succès. Toute la région a soutenu le plan. Gaza sera démilitarisé, le Hamas désarmé et la sécurité d'Israël ne sera plus menacée. Avec notre aide, Israël a gagné tout ce qu'elle pouvait gagner. Par la force, par les armes. Maintenant, il faut traduire ces victoires en termes de paix et de prospérité pour le Moyen-Orient.
Emmanuel Macron, lui, n'était pas présent en Israël. En revanche, le chef de l'État était en Égypte et il s'est exprimé avant de décoller pour regagner Paris.
C'est une journée historique. C'est une journée historique pour les otages, leurs familles, pour le peuple israélien. C'est une journée historique parce que c'est celle d'un nouveau cessez-le-feu, du retour de l'aide humanitaire et donc pour le peuple palestinien. Mais on doit encore écrire l'histoire avec beaucoup d'étapes à venir, donc il faut beaucoup d'humilité.
Et j'ajoute qu'en parallèle, une conférence internationale pour la reconstruction de Gaza s'est ouverte près de Londres. La conférence de Wilton Park réunit, selon un communiqué de Downing Street, divers partenaires internationaux, parmi lesquels l'Allemagne, l'Italie, l'Arabie Saoudite, la Jordanie ou encore l'autorité palestinienne. L'actualité judiciaire en métropole. Nicolas Sarkozy attendu le 21 octobre prochain à la prison de la Santé à Paris pour purger sa peine de 5 ans avec exécution provisoire prononcée à son encontre dans l'affaire libyenne. L'ancien président de la République s'est vu notifier cette convocation. C'était la nuit dernière par le parquet national financier. Il pourrait être placé à l'isolement pour assurer sa sécurité. Je rappelle qu'il a fait appel de sa condamnation et devrait rapidement faire une demande de remise en liberté. Justice toujours et la tension était palpable la nuit dernière dans le box des accusés à la cour d'assises du Tarn. Cédric Jubilard était en effet longuement interrogé sur le déroulé de la nuit de la disparition de son ex-femme Delphine, la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Le trentenaire semblait en très grande difficulté. Charles Huillier à la cour d'assises du Tarn pour Europe 1.
Oui, à cause des incohérences entre les propos qu'il a tenus pendant l'instruction et ses réponses aujourd'hui. Un exemple, dans quelle tenue Delphine était-elle la nuit de la disparition, lui demande l'avocat général. Je ne me rappelle plus, dit-il, hésitant. Et oui, car si elle était en pyjama, comme vous le disiez au départ, cela ne colle pas avec votre thèse, celle de la disparition volontaire. Je ne sais plus, répond-il. Et puis si elle avait choisi de disparaître volontairement, pourquoi avez-vous retiré des espèces avec sa carte quelques heures après? Vous l'auriez donc laissé sans argent? Je ne me suis jamais posé la question, répond-il. Et puis cet autre échange intéressant concernant cette fois-ci la nuit de la disparition. Ce soir-là, dit-il, je me suis endormi. Ce n'est pas ce que dit votre fils, rétorque la partie civile. Il se trompe de nuit, avance Cédric Jubilard. Au cours de cet interrogatoire qui a duré plus de 6 heures, on sent un Cédric Jubilard essoufflé au micro, s'arrêtant régulièrement pour boire de nombreuses gorgées d'eau minérale. Un comportement jamais observé jusqu'ici et pour cause. Depuis le début de ce procès fleuve, c'est la première fois qu'il a autant été chahuté. Il n'a pourtant pas craqué, même la lettre de son fils Louis, lue à haute voix tout à l'heure à l'audience, n'a eu aucun effet sur lui.
Et je rappelle que le verdict est attendu vendredi. Cédric Jubilard encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Et puis c'était il y a 2 ans, l'assassinat de Dominique Bernard, le 13 octobre 2023. Le professeur de lettres tué dans un attentat islamiste perpétré par un ancien élève radicalisé devant la cité scolaire Gambetta Carnot à Arras. Un hommage était organisé devant cet établissement toujours meurtri. Le reportage de Maximilien Carlier pour Europe 1.
Funambule, danse et musique devant la cité scolaire Gambetta Carnot. C'est dans cet établissement que Dominique Bernard a été assassiné par un jeune radicalisé, son épouse Isabelle Bernard.
C'est un peu difficile de se retrouver ici 2 ans plus tard. On avance, on pense les blessures, on se répare.
Un drame qui a marqué les élèves comme Louis. Il était présent lors de l'attentat.
C'était compliqué quand même de vivre ça dans le lycée. J'étais en cours. Donc on a été confinés, etc. Ça, c'était une époque qui était très marquante et il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé.
Un hommage qui a rassemblé près de 300 personnes. Philippe, enseignant et ami de Dominique Bernard.
On essaye de le faire revivre à travers ses commémorations, mais malheureusement, il n'est plus là pour nous parler avec toute sa joie de vivre. C'est quelqu'un qui vivait sa matière.
Avec Samuel Paty, ses enseignants sont malheureusement devenus des symboles, ajoute-t-il, attristés, des hommes qui sont morts pour l'école, pour la République. À Arras, Maximilien Carlier, Europe 1.
Il est 11h, passé de 48 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu, on marque une nouvelle pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité en Nouvelle-Calédonie.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Des conseils concernant les placements, l'épargne, les SCPI ou encore la retraite? Caplif, votre expert calédonien en gestion de patrimoine, vous accompagne avec des solutions personnalisées. Caplif, depuis 35 ans à vos côtés. Et ce n'est que le début. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052, ORIAS 13103.
Entrepreneurs, du 21 au 24 octobre, la CCI Nouvelle-Calédonie vous donne rendez-vous pour la Digital Week, un événement inédit pour accélérer la transformation digitale de votre entreprise. Venez rencontrer les exposants et découvrir leurs solutions digitales, assister à des conférences et ateliers concrets et échanger avec un conseiller digital CCI. À la CCI de Nouméa, 15 rue de Verdun. Infos et programmes sur www.cci.nc. Digital Week, le numérique au service des entreprises calédoniennes.
Les lundis 13 et mardi 14 octobre, dans votre hypermarché Auchan Kéferi, vous cagnotez 10% à l'espace traiteur grâce à votre carte de fidélité. Waouh! Des plats aux petits oignons préparés en magasin avec amour à déguster chez vous. Waouh! Ça vaut vraiment le coup. Auchan, le bon moins cher.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité sur le territoire, on retrouve Nicolas Legrand.
Et les choses qui évoluent à l'ONU, c'est le sentiment de Naya Watéou qui rentre de New York où, en compagnie de Marie-Laure Ukéwe, elle a pétitionné devant la 4e commission de décolonisation de l'ONU, Elisabeth Noir.
Dans leur intervention à la tribune, Naya Watéou et Marie-Laure Ukéwe ont rappelé que les Calédoniens se sont exprimés 3 fois en faveur du maintien de la Calédonie dans la France. Elles ont alerté sur les ingérences étrangères qui viennent polluer les discours et elles ont rappelé la nécessité d'aller au bout du processus de Bougival, qui est la 4e option de l'ONU, c'est-à-dire qu'il permet une large autonomie au sein de la République française. Aux côtés de la délégation des partisans de la France, il y avait d'autres pétitionnaires sur le dossier calédonien, et notamment des représentants de l'UNI, qui ont eux aussi défendu devant l'ONU le processus de Bougival. Et puis il y avait aussi des porte-parole du nouveau FLNKS, relève Naya Watéou.
Là, ça commence à devenir du n'importe quoi. Clairement, quand on entend des discours d'un ancien diplomate britannique, dont on sait après discussion dans les couloirs que la femme est azerbaïdjanaise, qui n'a jamais mis un pied en Calédonie, qui vient s'exprimer en soutien au peuple kanak opprimé, qu'on a un élu guyanais, lorsqu'on échange avec lui, qui n'a jamais mis un pied en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'on a un illustre inconnu écossais, parce que Calédonia et Nouvelle-Calédonie, ça sonne pareil, ça devient n'importe quoi.
Naya Watéou a interpellé directement le nouveau FLNKS pour avoir retiré sa signature de l'accord de Bougival. Elle a aussi rappelé les responsabilités dans les violences insurrectuelles du 13 mai et elle constate qu'aujourd'hui, la vision de l'ONU a évolué.
On voit que le rapport a changé. Et on le voit aussi notamment dans les différentes interventions. La France est reconnue comme étant exemplaire dans son processus de décolonisation. Le 3e référendum s'est tenu dans des conditions particulières, mais à aucun moment l'ONU dit que ce 3e référendum n'est pas valide. Et puis surtout, ce que l'on voit et ce que l'on a vu sur cette séquence en particulier, c'est les prises de position, notamment de Fidji, qui est intervenu au titre du groupe mélanésien Fer de Lance, mais aussi le représentant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui sont allés dans le sens du maintien du processus de dialogue au travers de l'accord de Bougival. C'est un discours qu'on n'avait pas forcément entendu auparavant. En tout cas, c'était des pays qui étaient très librement alliés et défendeurs de la cause des indépendantistes. Aujourd'hui, on sent ce revirement. C'est aussi ce travail-là qui est fait, notamment sur les différentes instances, que ce soit à l'ONU, que ce soit dans le Pacifique.
Une interview de Naya Watéou à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet.
Retour à présent sur ce feu de brousse à Païta. Il est maîtrisé depuis hier, mais toujours sous surveillance. Le dispositif déployé depuis dimanche par la DSCGR a permis de fixer une bonne partie des flammes qui menaçaient la tribu de Bangou et avait nécessité le déclenchement du plan Orsec, feu de forêt de niveau 2. Plan de niveau 2 qui devrait être levé dans la journée, nous a dit le responsable des opérations, Gwenval Cambon.
Alors le feu est toujours sous contrôle. Hein. Depuis hier, on a pu passer à un feu maîtrisé. Pour autant, en effet, il y a encore des points chauds qui demandent à être traités et à surveiller. Pour autant, le dispositif mis en place a permis d'assigner aucune aux prises de feu. Donc, on devrait pouvoir lever le dispositif hors sec de niveau 2 dans la matinée. Les pompiers de Païta pourront donc continuer à assurer la surveillance jusqu'à, on l'espère, passer un feu éteint demain matin.
Au total, plus de 400 hectares ont été brûlés.
À Radio Rythme Bleu, 11h53.
C'est un lieu où les femmes peuvent se rencontrer, s'écouter et construire ensemble. Nouméa Women's Forum revient cette année. Le rayonnement sur le Pacifique ainsi que la jeunesse seront au cœur de cette 5e édition, Charlotte Coulson.
Depuis 2021 déjà, la ligne directrice du forum est claire. Rendre visibles les parcours féminins inspirants et structurer un réseau qui leur est dédié. Cette année, l'accent est mis sur le rayonnement régional, l'accès des femmes à des postes à responsabilité tels que les fonctions diplomatiques dans le Pacifique. Comme depuis son lancement, le Nouméa Women's Forum est porté par Naya Watéou, élue de la province sud.
Cette 5e édition a aussi été préparée avec cette thématique qui est celle de pouvoir aller au-delà de la Nouvelle-Calédonie avec cette dimension pacifique. Et puis ce fil conducteur qu'on s'est attaché aussi à mettre en œuvre en parlant des voix VOIES et VOIX, ces voix du Pacifique, pour pouvoir avoir ce rayonnement et cette amplification de ce qu'est aujourd'hui l'entrepreneuriat, le leadership au féminin et sa spécificité dans le Pacifique. Ça me semblait intéressant de pouvoir mettre en avant cet aspect diplomatique au sein de la Nouvelle-Calédonie parce qu'on a aujourd'hui une consule d'Australie, une consule de Nouvelle-Zélande, une consule du Japon et puis une ambassadrice de la France dans le Pacifique qui sont de véritables personnalités inspirantes et donc de pouvoir aussi mettre en avant cette dimension-là du monde diplomatique et comment en tant que femme on arrive à pouvoir apporter une petite touche dans un monde souvent masculin.
La province sud bénéficie d'ailleurs cette année du soutien de l'État, 1 200 000 francs via le Fonds Pacifique. Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de la France dans le Pacifique, est d'ailleurs l'invitée d'honneur de cette édition. Comme l'explique la directrice de cabinet du haut-commissaire Anaïs Haït-Mansour, l'une des priorités de la diplomatie française est de soutenir l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en faisant la promotion du leadership féminin.
Le dernier état des lieux de la communauté pour le Pacifique de la CPS, qui date de 2014, faisait état que seulement 25% des entreprises individuelles étaient dirigées par des femmes et seulement 36% des postes de cadre dans le privé étaient dévolus aux femmes. Donc il y a bien en fait un sujet de stéréotype de genre ou de stéréotype ou de discrimination sur certains postes. Et le fait de donner la parole à des femmes qui sont sur des postes à responsabilité, qui sont en situation de leadership, permet vraiment de déconstruire certaines stéréotypes et donner des exemples pour les femmes inspirants afin de se projeter.
La 5e édition du Nouméa Women's Forum sera lancée le 4 novembre. Elle s'ouvrira avec une table ronde sur l'entrepreneuriat féminin dans le Pacifique.
Faire découvrir le cinéma aux plus jeunes, c'est là l'objectif de la 17e édition du festival de la première séance qui vient de débuter. Il réunit les familles autour du cinéma et participe à l'éducation à l'image. Les explications d'Hélène Singer, l'organisatrice du festival.
C'est un festival de cinéma jeunesse, donc un festival à destination des enfants, mais aussi évidemment de toutes les familles et autour du cinéma, du 7e art. Donc on va avoir des films pour les petits, des programmes de courts-métrages à partir de 3 ans, mais également des longs-métrages pour les un peu plus âgés. Puis également beaucoup d'ateliers gratuits à disposition avec ou sans inscription. Notre objectif à travers cet événement, c'est l'éducation à l'image. L'éducation à l'image, c'est utiliser le cinéma pour apprendre à s'ouvrir l'esprit, découvrir le monde à travers des films qui viennent de beaucoup de nationalités différentes, des façons différentes de raconter des histoires, et puis donc d'apprendre et de comprendre comment on fait les films, comment ça se passe, comment on fait du cinéma.
L'association Jeune Étoile a initié ce festival en lien avec la ville de Nouméa. Alexia Duchesne en est la présidente.
Le festival, la première séance, qui prévoit dans sa programmation ce qu'on appelle des programmes petites toiles, parce que le but premier, c'est de permettre aux enfants de vivre leurs premières expériences de cinéma. Donc l'association regroupe à la fois des passionnés de cinéma, mais aussi des personnes qui sont convaincues que via l'éducation à l'image, on peut transmettre des messages positifs en lien avec les problèmes aussi sociétaux, etc. En 2009 est né le projet REX. Cette année, le REX ferme, donc c'est une année particulière pour nous parce qu'il va falloir se réinventer et proposer le festival ailleurs l'an prochain.
Et le festival se déroule au REX de Nouméa jusqu'au 18 octobre. Plusieurs projections sont prévues également à la FOL ou encore au CineCity cette semaine, mais aussi au Mont d'Or, à Dimbéa et dans le Nord. 11h57, on marque une dernière pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive en compagnie de Lionel Sabot. On va parler football puisque l'équipe de France jouait en foot, évidemment, pour la qualification à la Coupe du Monde 2026 ce matin.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Jusqu'au 2 novembre, jouez à la jauge des cadeaux avec Guise. Les essentiels pour bébé sont à remporter. Une chambre toute équipée, les indispensables pour la cuisine et le bain. Et même 6 mois de couche Guise Essentials. Chaque participation fait grimper la jauge. Et à chaque palier franchi, un nouveau lot se débloque. Alors n'attendez plus, chaque participation compte. Plus d'informations sur le Facebook. Sac et bon NC, règlement déposé chez Maître Citrita.
Réartec, votre expert en miroiterie et vitrerie, cloisonnement en verre, crédence, paroi de douche. Transformation et pose avec qualité garantie pour professionnels et particuliers. Rendez-vous au showroom à Ducos ou le 28 77 67. Réartec, la transparence au service de vos projets.
Besoin de chaussures ou de vêtements de sport? Pensez à votre magasin Ozone Sport situé au centre-ville de Nouméa. Venez découvrir les plus grandes marques de sport telles que Nike, Adidas, Skechers et plein d'autres. Ouvert en continu du mardi au samedi de 9h à 17h30. Facebook Ozone Sport.
Ce sont les beaux jours. Aménagez votre terrasse ou votre jardin à petit prix avec Jardiland. Du 29 septembre au 19 octobre, craquez pour notre rouleau de gazon synthétique 7 mm, 2 mètres par 3 à seulement 3 990 francs. Jardiland, Nouvelle-Calédonie, vos économies commencent ici.
Jardiland. Cultivez votre bien-être.
Tout le sport en 3 lettres. RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Et on parle ballon rond avec l'équipe de France qui était en déplacement ce matin en Islande pour la 4e journée de qualification à la Coupe du Monde 2026. Lionel Sabot.
Je vous ai dit que c'était sphérique. Et après 3 victoires de rang dans ces qualifications, les Bleus ont calé ce matin à Reykjavik face à une équipe islandaise qui n'en finit plus de surprendre. Menée 1-0 à la pause, les Bleus ont su se ressaisir en seconde période en revenant au score par Nkungu, puis en prenant l'avantage par Mateta. Mais dans la foulée de ce deuxième but français, voilà que les Islandais ont égalisé à la suite d'une grossière erreur de défense des Bleus. Écoutez Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, pas franchement content.
On ne doit pas le prendre à ce moment-là, après avoir égalisé, qu'on se fasse transpercer, mal positionné aussi haut. On avait fait ce qu'il fallait pour mener, le prendre comme ça, même si c'est l'adversaire qui l'a marqué. Mais bon, on a ouvert un peu les portes. Il mène 1-0 à la mi-temps sans avoir d'occasion pratiquement. Nous, on n'en avait pas beaucoup. On en a eu plus en deuxième parce qu'on a réussi à mettre un peu plus de percussion, de vitesse. Si on pouvait gagner tous les matchs, on fait en sorte, mais il y a des adversaires aussi.
Et même si l'essentiel, c'est les 3 points, les Bleus rentrent de ce déplacement en Islande avec le point du match nul. Ils conservent toutefois très largement leur place de leader de leur groupe de qualif. Dans l'autre match du groupe, l'Ukraine s'est imposée 2-1 sur l'Azerbaïdjan. L'Ukraine, prochaine adversaire de l'équipe de France, ce sera tout pile dans un mois. Et en cas de victoire, les Bleus seront qualifiés pour la Coupe du Monde.
Un mot de basket dans la région pour terminer avec la suite de la Melanesian Cup aux îles Salomon. Cet après-midi, à partir de 13h30, la sélection calédonienne dames rencontrera la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et à 16h, les Messieurs affronteront les îles Salomon, rappelant qu'hier en ouverture de ce tournoi chez les dames, les Calédoniennes s'étaient imposées 63-30 sur les Salomonaises.